Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à l'émission Parking Nomade qui s'intéresse à la littérature dans tous ses états. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le romancier Jean Tellet qui vient de publier Fleurs de tonnerre chez Julliard. Jean Tellet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Et bonjour et merci à vous.
Alors Jean Tellet, vous avez été journaliste, vous êtes depuis quelques années romancier, plus d'une douzaine de romans publiés dont plusieurs témoignent d'un goût pour l'histoire. Et votre dernier roman, le paru, s'inscrit dans cette veine historique avec bonheur. Alors, Fleur de tonnerre, c'est le surnom, on va résumer très brièvement un peu de quoi il s'agit, c'est le surnom donné à une jeune paysanne bretonne, Hélène Jegadeau, qui très tôt aura embrassé, si l'on peut dire, la carrière d'assassin, se faisant embaucher comme cuisinière, ça et là, en Bretagne. Et donc, l'action se passe au début du 19e siècle, les années 1810, 1820, 1830, c'est la période...
Oui, elle est née en 1803, et elle a été guillotinée en 1852.
Alors oui, parce qu'on connaît la fin, dès le début, on connaît.
C'est comme la vie de Jeanne d'Arc. Il n'y a pas de suspense.
Ben, c'est ça, c'est plus fort qu'elle. Elle tue, elle sème des morts sur son passage, des femmes, des enfants, des bébés, des adolescents, des vieillards, mères, tantes. Bon, c'est vraiment plus fort qu'elle. Et donc, vous avez dit, elle sera guillotinée. Donc voilà un roman dont on connaît le début, on connaît la fin, on connaît les péripéties. Pourtant, on entre dans cette lecture et on va aller jusqu'au bout. Croyez-vous qu'il s'agit d'une sorte de fascination pour le mal chez le lecteur et chez vous, du coup, dont vous seriez le coupable?
Mais oui, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en tout cas en France, ce livre a énormément de succès et je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'en suis bien content.
Ouais, qui peut expliquer le succès au fond?
Puis ça prouve rien le succès. Ça prouve ni que c'est bien, ni que c'est pas bien. Ça prouve juste que ça a eu du succès.
La Bretagne que vous peignez, parce que ça se passe en Bretagne, on l'a dit, que vous peignez dans ce roman apparaît comme une terre profondément superstitieuse, en tout cas à ce moment-là. Chez les paysans, presque chaque geste de la vie quotidienne s'accompagne d'un geste chargé de conjurer le mauvais sort ou alors hérité de la tradition. Par exemple, à un moment donné, il est dit qu'il ne faut pas balayer la maison d'un mourant car son âme y traîne déjà et ça le dérangerait. Les coups de balai pourraient le blesser. Est-ce ainsi que vous apparaît la Bretagne au 19e siècle, pétrie de superstitions?
Oui, mais ce n'est pas qu'elle m'apparaît, c'est qu'elle était comme ça. C'était plein de légendes, plein de traditions étranges. Par exemple, il y avait des églises, souvent les gens croient que je l'invente et ce n'est pas vrai du tout, c'était la réalité. Il y avait des églises en Bretagne, à première moitié du 19e siècle, qui s'appelaient Notre-Dame de la Haine. De la Haine. Ouais. C'est-à-dire que c'était des églises où on allait prier pour la mort de quelqu'un. Et il y avait aussi un saint qui s'appelait Saint-Yves de Vérité, qui était un saint qui avait la réputation d'avoir du pouvoir, mais d'être aussi feignant et revêche. Et donc, quand on voulait qu'il exauce un vœu, il y avait des statues de ce saint, Saint-Yves de Vérité, dans toutes les églises bretonnes, et on allait demander qu'il exauce un vœu avec un fouet ou un bâton, et les gens lui foutaient sur la gueule au saint pour qu'il accède à la demande qu'on lui présentait.
Et très concrètement, là, on le fouettait.
Ah oui, oui, oui,
pas exact. Seulement des injures.
Il fallait taper sur le sein. Et c'était plein de traditions comme ça. Il y en a eu aussi, je raconte souvent, c'est qu'en Bretagne, quand on construisait un pont, il y avait la tradition disait que le premier humain qui allait traverser le pont allait mourir dans l'année. Ce qui posait d'énormes problèmes, parce qu'à chaque fois qu'on construisait un pont, en Bretagne, personne ne voulait le traverser. Et donc, il a fallu trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution à la bretonne, c'est-à-dire que dans une des piles du pont, on creusait une niche à l'intérieur de laquelle on mettait un nourrisson vivant qu'on emmurait, et les gens traversaient le pont. Et puis les soirées, surtout les soirées en Bretagne, dans les veillées, dans les ferme bretonne, comme a connu Hélène Jégado quand elle était enfant, et c'est ce qui l'a marqué terriblement. Tous les soirs, on racontait des légendes bretonnes. Et les légendes bretonnes, c'est des trucs de cinglés. Et avec plein de personnages complètement étranges, des poules piquées, des corrigans, des Marie Morgane, des sirènes, tout ça. Et surtout, un personnage très célèbre de légendes bretonnes dans la Bretagne de cette époque-là, qu'on appelle toujours l'Ankou. Et l'Ankou, c'est l'ouvrier de la mort.
Une sorte d'ange exterminateur.
Voilà, c'est ça. Il est représenté sous forme de squelette, avec un grand chapeau, une grande cape noire et tout. Il se balade toujours avec sa faux, avec la lame emmanchée à l'envers, parce que les paysans, eux, tire le tranchant de la lame pour couper par exemple le blé, tandis que l'Ankou a le tranchant à l'extérieur pour lancer sa faux, pour faucher les gens. Et l'Ankou se promène par tous les chemins de Bretagne avec sa charrette qu'on appelle la carriguelle de l'Ankou, et tous les humains qui croisent, il les fauche, les corps tombent dans la charrette, et voilà. Et Hélène Jégado, à force d'entendre ces légendes-là quand elle était enfant, dans la ferme de ses parents, et ben, au bout d'un moment, et ben, elle s'est prise pour l'Ankou. Elle a cru qu'elle était investie d'une mission, qu'elle était la réincarnation de l'Ankou, et que donc elle devait tuer tous les gens qu'elle allait croiser. Et que, comme vous le disiez, que ce soit des hommes, des enfants, des nourrissons, des vieillards, des gentils. Souvent, il lui arrivait de tuer, d'empoisonner des gens qu'elle aimait beaucoup. Et alors, ça lui faisait beaucoup de peine, mais elle les tuait quand même. En plus, elle n'était même pas menteuse. Quand elle arrivait dans une maison pour faire la cuisine, parce que c'était une cuisinière, elle arrivait toujours en prévenant les gens, en disant « Partout où je vais, la mort m'accompagne. » Donc, elle ne mentait même pas. Et elle allait aussi souvent aux obsèques de ses victimes, et en sortant du cimetière, elle disait toujours la même phrase, elle disait « Ah là là, encore un, et quand je pense que ça n'est pas le dernier. Ouais. » Et elle a commencé à 8 ans, sa première victime, ça a été sa mère qui l'avait surnommée Fleur de Tonnerre, et elle a empoisonné sa mère à 8 ans, après elle a empoisonné ses deux tantes maternelles, sa propre sœur, tout ça, et des années plus tard, elle est repassée par le village où elle habitait, Plouinec, à côté de Lorient, pour aussi tuer son père, qu'elle avait oublié, parce qu'il faut bien faire les choses.
Il faut aller jusqu'au bout de la liste.
Et ça a duré jusqu'à 48 ans.
Ouais. Mais alors, vous avez bien résumé le parcours d'assassin de Fleur de Tonnerre, parce que finalement, le surnom va lui rester.
C'est un beau titre, c'est un beau surnom.
C'est un très beau titre, d'ailleurs.
Et ça existe vraiment en Bretagne. C'est des toutes petites fleurs bleues qu'on trouve surtout dans le Finistère, qui est des petites fleurs qui poussent sur les haies et qu'on appelle des fleurs de tonnerre.
Ouais. Mais alors, tout de même, sans lui chercher des excuses à Fleur de Tonnerre, vous avez aussi montré l'espèce d'arrière-plan ou même de substrat, de cruauté, de christianisme noir mêlé de fonds païens, de la religion celtique. C'est ce mélange-là qui devient vénéneux.
Exactement, oui, parce que c'est une époque où le catholicisme essayait de véritablement s'implanter en Bretagne où on parlait pas français, on parlait le breton. Moi, mon amie qui est bretonne, sa grand-mère comprenait le français mais n'a jamais parlé que breton, et c'était c'est un pays de légendes celtiques et puis de catholicisme qui essaye de s'implanter. Les catholiques ont commencé par essayer de casser le plus de menhirs qu'ils pouvaient pour récupérer les pierres, pour en faire des linteaux de porte d'église, pour que ça emmène les gens vers les églises. Ils cassaient et creusaient aussi dans des menhirs des bénitiers. Ils mettaient des statues de l'Ankou dans les églises. Et encore maintenant, au XXIe siècle, il y a des églises en Bretagne où il y a la statue à l'intérieur, la statue de l'Ankou. C'est complètement incroyable. Sur des façades d'église, il y a des personnages de légendes celtiques, des sirènes et tout, qui sont encore là-dessus. Hélène Jégado, c'est vraiment un fruit des légendes bretonnes.
« à cela s'ajoute, les légendes bretonnes on veut bien, mais à cela s'ajoute aussi un climat général de cruauté, parce qu'il y a des légendes souriantes, aimables, mais celles de la Bretagne, celles bretonnes, sont particulièrement cruelles et reposent aussi sur des gestes, sur des faits cruels. Vous avez parlé de ce nourrisson emmuré vivant. En Basse-Bretagne, et que l'on pense à cette scène qui revient de manière récurrente, ces bretonnes qui, certains jours, devant l'étranger qui leur paraît un peu trop étranger, justement, eh bien, lentement enlèvent leurs grandes épingles qui tiennent leur coiffe et carrément, elles chargent.
Mais voilà, c'est ça. Oui. Et quand un étranger arrivait dans un village, par exemple, quelqu'un qui se perdait et tout, dès qu'on ne connaissait pas quelqu'un, toutes les femmes sortaient sous le pas de la porte, tiraient une épingle, une aiguille de leurs vêtements, allaient vers l'étranger et le piquaient avec l'aiguille. Pas pour le tuer, hein, juste pour lui faire couler une goutte de sang. Parce que si on lui faisait couler une goutte de sang, il ne pouvait plus vous nuire. Donc quelqu'un qui s'égarait, qui arrivait dans un village, était piqué partout, dans les fesses, dans les bras, dans la figure d'aiguille. Mais c'est vrai que c'était une région très très dure, la Bretagne à cette époque-là. Par exemple, en breton, on ne dit pas « je t'aime ». Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traduction. Ça, c'est quand même une des rares langues au monde où « je t'aime » n'existe pas.
Ça paraît même incroyable parce que ça supposerait que cette Bretagne... Et d'ailleurs, c'est suggéré à quelques reprises, la Bretagne est un pays à part en soi, ne serait-ce que par son histoire, ne serait-ce que par la couleur générale mortifère là, que l'on décrit. Vous avez forcé le trait?
Ah, pas du tout. C'était vraiment fou.
C'est attesté.
C'est vraiment fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en exergue du livre, c'est-à-dire qu'avant que le roman démarre, une phrase d'un monsieur qui s'appelait Jacques Cambry, heureusement c'était pas un Normand, Jacques Cambry, c'est lui qui a fondé l'Académie celtique en 1805 et qui a écrit cette phrase formidable à propos de la Bretagne. Il a dit « Chaque pays a sa folie, la Bretagne les a toutes ». C'était vraiment un pays cinglé, quoi, la Bretagne à cette époque-là.
Mais à quelques reprises, Hélène, à son procès notamment, et puis parfois quand elle trouve à s'embaucher, je ne sais plus si c'est chez le curé ou ailleurs, elle dira « C'est loin d'ici la France » ou « Je ne sais même pas où c'est la France ».
Mais oui.
Alors, on a vraiment l'impression que la France est un pays étranger par rapport à en tout cas, certainement à fleur de
mais
tonnerre.
Mais oui, ils ne se considéraient pas du tout comme français, les Bretons. Oui.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que la culture bretonne est résolument étrangère à l'esprit français, comme une greffe qui n'a pas pris,
Mais oui,
finalement?
Mais ça vient de sa géographie. Par exemple, en France, si on veut aller de Nice à Lille, si on passe par l'Orient, c'est vraiment qu'on s'est perdu, quoi. Parce que c'est un bras de terre qui va dans la mer. C'est pas traversé comme toutes les autres régions de France par les gens qui descendent du nord vers le sud ou le contraire, ou descendent ouest. C'est ce qui fait que tout ça, ça brassait les populations et ça donnait après
un peu de liant,
ça donnait la France. Tandis que la Bretagne, pour aller en Bretagne, il fallait vouloir aller en Bretagne. On passait pas par la Bretagne pour aller d'un endroit à un autre.
Et pourtant, la Révolution française a eu lieu au moment des faits que vous évoqué. Et avec la Révolution française, même si là aussi il y a eu des épisodes, on le sait, mortifères avec la Terreur, mais tout de même, les idéaux de la Révolution française, c'était les Lumières. La Bretagne est imperméable, mais on sait qu'il y a les Chouans, bien sûr.
Mais c'est exactement ça. La Bretagne était complètement imperméable à l'arrivée du siècle des Lumières et de la culture. Ils étaient en vase clos, ils vivaient... il y avait beaucoup de consanguinité, tout ça. Ils étaient accrochés à leur légende auxquelles ils croyaient à fond. Et souvent, je dis que Hélène Gégado, elle ne pouvait être que bretonne. On ne peut pas imaginer qu'elle venait de l'Eure-et-Loire ou de je ne sais pas quelle autre région de France. Quoi. Elle est le fruit de la Bretagne. Puis elle était marrante parce que, par exemple, quand elle arrivait dans une maison, c'est ce qu'elle a fait chez un abbé qui s'appelait Le Drogo, dans un village qui s'appelait Bubry, où elle raconte que quand je suis arrivé chez l'abbé Le Drogo, il y avait 7 personnes. Quand j'en suis reparti, c'est moi qui ai fermé la porte. C'est-à-dire qu'elle avait tué tout le monde, quoi.
Et alors, l'étonnant, c'est qu'on ne s'interroge pas, c'est-à-dire qu'on ne semble pas la soupçonner, en tout cas.
Non, et même au début, les gens étaient très surpris et la prenaient pour une miraculée, parce qu'elle arrivait dans une maison, tout le monde mourait sauf elle. C'est incroyable, tout le monde meurt sauf elle. C'est une miraculée, on la prenait du coup pour une sainte.
Il faut dire qu'elle était belle aussi, la beauté peut tromper.
Elle était très belle, elle ressemblait à une sirène d'après les descriptions et tout. Et alors d'abord on l'a prise pour une sainte, ensuite les gens ont pensé exactement le contraire. C'est en fait dès qu'elle arrivait dans une maison, tout le monde mourait. Donc c'était une foule à poisse, on disait qu'elle avait les foies blancs, c'était une expression bretonne de l'époque. Les médecins ne voyaient rien parce que les symptômes des gens qui meurent par l'arsenic sont proches des symptômes qu'on a quand on subit le choléra. Et qu'en Bretagne, à cette époque-là, il y avait des retours fulgurants de choléra. Et que le choléra est une maladie bizarre, peut arriver dans un village, frapper une maison, seulement une maison, ça touche pas les autres maisons. Puis ça saute le village d'après où il se passe rien. Et le village suivant, paf, il y a de nouveau des morts et tout. Et du coup, ça suivait parfaitement son voyage à ma fleur de tonnerre.
Oui, alors il y a la Révolution française et les Lumières qui auraient pu apporter un contrepoids à toute cette matière bretonne, on va dire. Mais il y a aussi la langue française, fleur de tonnerre et analphabète. Elle parle breton. Et les gens instruits autour d'elle, le curé, le médecin, eux parlent français. La langue française dans ce roman et dans l'histoire est-elle synonyme de progrès, luttant contre l'obscurantisme breton?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est dès qu'il y a eu les chemins de fer qui ont commencé à arriver en Bretagne, les routes, tout ça, que là, tout d'un coup, tout ça s'est civilisé. Et maintenant, la Bretagne, c'est vraiment en France, évidemment. Oui.
Votre roman Gentelet a aussi une dimension politique. À quelques reprises, il est fait mention d'un autre grand assassin qui opère à une autre échelle, beaucoup plus vaste que Fleur de Tonnerre, qui finalement s'en tient à 37 empoisonnements, ce qui est peu de choses, et qui reçoit, lui, ce grand assassin, des médailles, en dépit des morts qui se comptent par milliers, c'est Napoléon Bonaparte.
Voilà, qu'elle appelait Léon Napo, quoi, c'était son prénom, Léon. Et quand un vieil instituteur qui va d'ailleurs empoisonner lui dit qu'on doit 2 millions de morts à Napoléon, alors là, elle est humiliée. Elle dit, ouais. Mais qu'est-ce qu'il leur faisait à manger, lui?
Et quand on lui elle dit est renvoyée à ses pauvres statistiques.
Voilà, elle se trouvait mais ridicule quand on lui disait qu'en Russie, Napoléon a fait finalement tuer 200 000 personnes, 40 000 à Waterloo, tout ça. C'était une humiliation terrible pour elle.
On sent donc l'ironie là, qui affleure, l'ironie du romancier. Vous avez voulu écrire aussi un roman anti-bonapartiste?
Ah, mais moi, je ne l'aime pas beaucoup, Napoléon. Oui. Il y a beaucoup de gens qui aiment Napoléon en France, mais moi je trouve que c'est vraiment un grand assassin qui a servi strictement à rien. Il est arrivé au pouvoir et quand il en est reparti, la France était plus petite, avec des millions de morts. Et puis quand on lui parlait d'une bataille où il y avait eu 40 000 morts comme Waterloo, tout ça, il regardait Paris, il disait en une nuit, tout ça sera repeuplé avec les gens qui vont se reproduire. Donc, je déteste ce Napoléon crétin.
Ouais, vous lui réservez quelques pics, mais vous réservez quelques pics aussi au neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III.
Qui était encore plus con, lui. Parce qu'il a déclaré la guerre à la Prusse sans aucune raison. Alors que l'armée française était beaucoup moins puissante que l'armée prussienne. Et quand il a déclaré la guerre, c'est juste sur une erreur de traduction. Il y a eu un traité qui a été mal traduit. Et à cause de cette erreur de traduction, il a déclaré la guerre à la Prusse, qui a été un carnage pour la France.
Et qui aura des conséquences, évidemment, pendant tout le XXe siècle.
Ah oui, la famille Napoléon, je ne la porte pas dans mon cœur.
Oui, ben d'ailleurs, il apparaît, Napoléon III, en filigrane au moment du procès. Que là, il y a eu le coup d'État. Et donc, un des témoins, le docteur Baudin, il est d'ailleurs tué sur les barricades à Paris. Il ne peut pas témoigner.
Et d'ailleurs, c'est à cause de Napoléon III que Hélène Gégado est inconnue en France, très peu connue en Bretagne. Moi, mes copains bretons, quand je leur disais, je vais écrire un livre sur Hélène Gégado, ils me disaient tous, mais c'est qui? Je dis, comment ça, c'est c'est qui, c'est la plus grande tueuse que vous ayez jamais eu en Bretagne et qui jamais eu sur Terre et tout. Et tout ça à cause d'un détail, c'est que l'histoire d'Hélène Jégado a rencontré la grande histoire parce que son procès a démarré le samedi 6 décembre 1851 et que 4 jours avant, le mardi 2 décembre, il y a eu le coup d'État de Napoléon III. Et donc, évidemment, ça a pris toute la place en France, parce que c'était un cataclysme en France, et que du coup son procès a été zappé et qu'ensuite elle a glissé dans les oubliettes de l'histoire, et que je me dis qu'il était temps de remettre en valeur et en lumière cette petite fleur sauvage bretonne.
Oui, et en quelque sorte mettre dans les plateaux de la balance d'un côté les assassinats perpétrés par Fleur de Tonnerre sur le plan domestique, on va dire, et dans l'autre plateau, la liberté qu'on assassine, c'est ce qu'on dit.
Exactement.
À un
ouais,
moment
ouais.
donné. Donc, c'est votre justice à ouais, vous de romancier. Ouais. Le procès, dernière question, le procès de Fleur de Tonnerre donne lieu à une défense assez étonnante.
Incroyable.
Pour certaines créatures, il existe une vérité qui se situe au-dessus des hommes. Hein, c'est la thèse de l'avocat.
Ouais.
Il y a là un mystère et du mystère, on ne peut pas juger. Peut-être, dit l'avocat, peut-être un écrivain saurait-il. Quelles sont les armes?
Et il a vraiment dit cette phrase-là. Il a dit que peut-être qu'un jour, un écrivain saura démêler tout ça et racontera tout ça.
Et moi, Jean Telévin.
Eh ben tiens, l'écrivain, ça va être qui? Ben ça va être moi.
Ouais.
C'était un jeune avocat assez génial qui avait 24 ans, il s'appelait Magloire d'Orange. Quel nom, Magloire d'Orange. Et qui a lutté contre la peine de mort en disant aux jurés, est-ce que vous allez longtemps hésiter entre refermer pour toujours la porte sur un fléau, ou bien conduire ma cliente au bourreau qui la tuera en public pour enseigner au peuple qu'il ne faut pas tuer. Mmh. Il a dit ça, mais bien longtemps avant qu'en France, on parle de l'abolition de la peine de mort.
Mmh. Mais précisément, quelles sont les armes d'un écrivain que la justice n'a pas pour éclairer le mystère Fleur de Tonnerre?
Eh bien, finalement... Hélène Jégado n'a rien voulu expliquer, rien voulu justifier, donner aucune explication à un moment de son procès. C'est la veille de son exécution qu'elle s'est mise à parler. Quand l'abbé de Kercelin est venu dans sa cellule, et puis il y avait dans la même cellule le gardien-chef de la prison qui s'appelait Michel, et tout d'un coup, là, elle s'est mise en marche, elle s'est mise à parler. Et a raconté que quand elle était enfant, qu'elle entendait dans la ferme de ses parents ces légendes bretonnes, et qu'elle voyait la crainte de ses parents pour l'encou et tout, elle a dit un truc, on aurait dit du dolto avant l'heure. Elle a dit, quand les parents ont trop peur, ils redonnent leur peur aux enfants. Et ils ne protègent plus. Et alors là, tout peut arriver. Tout peut arriver jusqu'à donner finalement naissance à une enfant qui se conduira comme l'ange de la mort.
Et tout ça, c'est dans la chronique. Vous avez lu les
documents. Oui, oui, oui.
Donc
bah,
ce n'est pas du dolto que vous injectez
posteriori. Non, pas du tout. Oui. Parce qu'en plus, ce qui était pratique pour moi, c'est que le procès d'Hélène Jégado en France a été le premier procès de droit commun où tout ce qui s'est dit au tribunal a été noté.
Ah, donc c'est un matériau formidable pour le romancier.
Moi, ça m'arrangeait, oui.
Alors, Jean Telet, merci. Je rappelle le titre de votre roman qui évoque la vie d'une Bretonne très singulière au 19e siècle, Hélène Jégado, sorte de bécassine malfaisante.
Oui, c'est bien ça.
Mortifère. Le titre Fleur de Tonnerre, c'est paru chez Julliard. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio Ville-Marie. À la technique aujourd'hui, Serge Plaisance. Au microphone, Marie-Andrée Lamontagne. À la prochaine.